que nous devons enchaîner ensuite sur la visite du salon rituel et puis surtout l'assemblée générale de l'association qui cette année a été avancée de façon à permettre un maximum de congressistes d'y participer et dans un état de fatigue moins avancé que d'habitude. Nous espérons que les débats n'en seront que plus vifs. Voilà, je laisse encore une minute pour que les derniers arrivants s'installent. Je rappelle que le titre de notre session, la bibliothèque comme université populaire, est-ce un effet d'une relecture trop rapide ou une coquille de l'imprimeur? Toujours est-il qu'il devrait sauter aux yeux qu'il manque un point d'interrogation. Nous ne sommes pas dans une affirmation ici, mais plutôt dans un moment d'échange pour voir si et comment la bibliothèque peut s'intégrer dans l'univers des universités populaires, sur lesquelles, bien évidemment, nous aurons à tracer très rapidement le cadre. Nos trois invités que je présenterai à la fin de mon introduction apporteront chacun un éclairage sur cette question. Le thème général du congrès, qui a été proposé par le groupe Rhône-Alpes, se situe dans le prolongement d'une réflexion de longue date que mes collègues du groupe Rhône-Alpes connaissent bien, puisque, en français courant, je les bassine depuis très longtemps pour travailler sur cette question de l'éducation populaire. Mon parcours professionnel a été initialement plus dans l'éducation populaire que dans les bibliothèques, et ce questionnement que je propose aujourd'hui de traiter avec nos invités, pour moi, il se pose depuis très longtemps, de façon plus générale, avec l'éducation populaire et les bibliothèques. Nous ne traiterons pas tout aujourd'hui, rassurez-vous. Simplement, nous avons débouché, sur la base de cette réflexion, sur une journée d'études en novembre dernier, qui était à Grenoble. Grenoble, qui est un des hauts lieux de l'éducation populaire. Ceux qui s'intéressent à l'histoire savent que l'école du Riage, l'école des cadres de l'État français, était installée à Uriage, donc en banlieue de Grenoble. C'était la campagne à l'époque. Guy connaît cette histoire beaucoup mieux que moi. Et donc il y a dans la région, à Grenoble en particulier, donc un ancrage fort de l'éducation populaire qui a pris d'autres dimensions, d'autres formes par la suite. Cette journée d'études donc était symboliquement ancrée. Nous l'avons faite avec des étudiants du DUT Infocom. C'était aussi une occasion de sensibiliser les étudiants à cette problématique de ce que nous avons appelé à l'époque les amours contrariés. J'y reviendrai très rapidement. En tout cas, cette problématique que nous avons déclinée sous les angles culturels, politiques, économiques, éducatifs, c'est globalement aujourd'hui sous l'angle de l'éducation populaire que je vous propose de l'aborder, avec le regard tutélaire au-dessus de nous de Condorcet, le pionnier, celui auquel on fera encore souvent référence lors de ce congrès, puisque ces cinq mémoires pour l'éducation publique, son rapport à l'Assemblée, etc., sont des éléments fondateurs. Indépendamment des questions de langage, il pose ses mémoires à un certain nombre de choses que l'on trouve encore des éléments séminaux de nos réflexions et de nos actions actuelles. Les universités populaires sont arrivées plus tard. Hier, nous avons eu un rappel sur les bibliothèques populaires dans un atelier. Tout le monde n'y était pas, mais les universités populaires ont aussi dans l'histoire un élément fondateur qui était l'affaire Dreyfus. Et la nécessité pour certains de ne pas se contenter d'une éducation du peuple à travers l'instruction par le ministère et les écoles, mais également de l'éducation des adultes et de toujours cette problématique de la construction de citoyens éclairés, informés, en capacité de former leur jugement. Ce premier mouvement d'éducation populaire s'est éteint progressivement. Il y a eu une première résurrection dans les années 60 avec l'université populaire qui est née à Mulhouse, qui était, alors je ne sais plus si c'était d'Alsace ou en tout cas c'est née à Mulhouse, elle est actuellement à Strasbourg, et qui est actuellement d'ailleurs la plus importante des universités populaires en France. Il y a actuellement une association des UP qui regroupe plus d'une soixantaine de membres. Nous sommes donc là dans un paysage où les UP commencent à être fortement ancrés. C'est un paysage social, politique, éducatif et culturel. Et que ce soit affiché ouvertement ou que ce soit une filiation implicite, c'est toujours l'enjeu citoyen. C'est à travers cet enjeu citoyen que se découvre le lignage des initiatives qui naissent dans les métropoles, mais également dans des territoires, on le verra tout à l'heure, dans des territoires ruraux. Une énigme subsiste, en tout cas pour moi, c'est la part modeste qu'ont pris les bibliothèques dans ce renouveau, d'où l'idée de cette rencontre d'aujourd'hui. La journée d'études de Grenoble était intitulée donc Bibliothèque, éducation populaire, les amours contrariés, parce qu'il nous semblait paradoxal qu'en portant des mêmes valeurs, à savoir la construction de citoyens éduqués et informés, et une contribution à l'émancipation du peuple, pour reprendre une terminologie qui n'a, à mon sens, pas vieilli, ces deux mouvements se sont au mieux côtoyés, dans une bienveillante indifférence, ou au pire confrontés pour un partage de ressources et une légitimité sans cesse à conquérir. Il y a eu certes l'effet d'aucun, je pourrais le citer, c'était Michel Sineux, un de nos collègues retraités aujourd'hui, qui l'avait baptisé naguère à propos de la musique « la malédiction des organigrammes ». À travers une valse entre les ministères, les secrétariats d'État, on est passé de l'instruction publique à la culture ou de l'éducation à la jeunesse et au sport. Il y a eu également des choix politiques. Ces choix politiques ont été brillamment analysés par Franck Lepage. Certains le connaissent, il est visible beaucoup sur le net, mais surtout il a fait un grand travail autour de ce qu'on appelle les conférences gesticulées, particulièrement l'une qui s'appelle « Inculture ». Et ces conférences sont diffusées par le réseau des coopératives d'éducation populaire. Il en existe actuellement 4, mais leur propos est de disséminer. Donc le pavé, l'orage, l'engrenage et vent debout, Rennes, Grenoble, Limoges et Toulouse, je crois. Et ces scopes d'éducation populaire font un travail de terrain, de formation, et qui s'inscrit dans la même dynamique. Et cette analyse de Franck Lepage, c'est qu'il y a eu aussi un certain tournant de l'histoire politique française, en particulier au moment de la création du ministère de la Culture, en 1959, une volonté de vider la formation permanente des adultes de sa dimension citoyenne pour la cantonner à des dispositifs d'adaptabilité à l'emploi. Et nous sommes aujourd'hui encore fortement dans cette dimension, de mon point de vue. Donc, identifier, analyser ces rendez-vous manqués entre bibliothèques et universités populaires dépasserait largement le cadre de cette rencontre, même si ces territoires féconds pourraient donner matière à recherche, études et colloques. Je vous propose aujourd'hui simplement de circonscrire l'approche à l'articulation entre ces deux institutions. Les premières à la recherche d'un nouveau souffle, les bibliothèques, la bibliothèque troisième lieu, bibliothèque et les lectures numériques, la bibliothèque dans la cité. C'est la recherche d'un nouveau souffle, d'un nouveau modèle au-delà de nos collections et de nos missions traditionnelles. Les secondes, les UP, sont toujours en quête d'un ancrage et d'une légitimité plus forte et comme une voie d'accès alternative au savoir et au débat citoyen. La conviction que nous portons fortement que la sphère publique comme celle du développement individuel ont tout à gagner à une meilleure intercompréhension mutuelle me font proposer que les bibliothèques et les universités populaires sont deux outils complémentaires et compatibles. Pour illustrer la problématique, nous avons invité trois personnalités qui ont chacune à leur manière agi pour comprendre et ou modifier le réel et dont les pratiques, de mon point de vue, convergent pour éclairer le même objet. Nous commencerons avec Guy Cèze, qui est à ma droite, pour ceux qui ne peuvent pas lire les cartels d'en haut, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'UMR Pacte à Grenoble, qu'il a dirigé de 2006 à 2011, qui a eu parallèlement à ses activités de chercheur un parcours important dans l'éducation populaire, à Peuple et Culture et à la Ligue de l'Enseignement, et également dans l'action culturelle en tant que président de la Maison de la Culture de Grenoble. Double parcours à l'origine de sa participation à la création du DESS, qui est devenu master, en direction de projets culturels à l'UEP de Grenoble et à l'Observatoire des pratiques culturelles. C'est lui qui commencera par nous brosser un portrait des enjeux de ce sujet que nous traitons aujourd'hui. Léon Wisnia, à ma gauche, qui est enseignant, militant associatif et cofondateur de Cité Philo avec Gilbert Glassman dans la région lilloise, également animateur d'un site dont vous pourrez noter l'adresse quand il vous l'affichera tout à l'heure, labêtedanslajungle.fr. Renaud Ayoutz, je ne dis pas à l'extrême, aujourd'hui ça serait malvenu, donc à droite de Guy XVI, chef de projet développement numérique à la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, mais connu auparavant comme étant le créateur et donc aujourd'hui ex-animateur de la Pulpe. Les Pulpes, pour les plus anciens d'entre nous, c'était les petites unités de lecture publique du temps où, dans les années 60, où on construisait une forme de coopération entre bibliothèques. Mais cette Pulpe-là est plus particulière, c'est la petite université libre et populaire de Tence. L'idée étant de dire que de Lille à Tence, eh bien, la problématique est la même, et que ce n'est pas la taille qui compte, ce n'est pas les moyens, mais le projet, la méthodologie, les enjeux et surtout les populations, les publics, les personnes que l'on associe à ces projets. Je propose à Guy XVI de rejoindre le pupitre et de commencer cet après-midi.
Merci pour cette présentation. Bonjour, bonjour à tous. Merci aussi pour cette invitation à laquelle je suis très sensible. Dans mon parcours, comme il a été dit, j'ai aussi croisé souvent et travaillé avec les bibliothécaires. J'ai fait des enseignements à l'ENSIB et le fameux diplôme de direction de projet culturel dont Christian parlait à l'instant, a aussi à un certain moment fonctionné en coopération avec l'ENSIB il y a de cela quelques années. Donc je suis content d'être avec vous cet après-midi. Alors, le titre que j'ai donné s'écarte peut-être un peu de la question de savoir si la bibliothèque doit être un des lieux où se refonde, où se renoue l'aventure de l'éducation populaire. Je l'ai plutôt considéré ici comme un centre d'intelligence publique et je voudrais essayer de justifier un peu ce titre. D'abord, la question générale, c'est de savoir si les bibliothèques à éducation populaire ne sont pas deux rescapés, des rescapés de l'idéologie de la démocratisation culturelle, ou bien des institutions rendues inutiles par la croissance extraordinaire de l'offre, offre de documents, d'informations, offre de loisirs, et ou bien encore deux ontologies qui seraient dépassées par l'individualisme et l'expressivité, l'individualisme expressiviste de la société postmoderne. Ce sont des questions que j'entends souvent quand je rencontre des professionnels et des militants des deux institutions, mais ce ne sont pas les questions que j'aimerais discuter ici, parce que d'abord, il faudrait sûrement beaucoup plus de temps, et d'autre part, je crois qu'elles nous peut-être nous dévieraient de quelque chose qui me semble plus intéressant à faire. Je voudrais donc essayer d'esquisser quelles sont, selon moi, les conditions et les éléments de situation auxquels font face ces deux institutions. Et pour finir, livrer à vos jugements quelques hypothèses d'évolution. Pour que mon propos ne soit pas, mal entendu, je voudrais décider donc tout de suite de dire que la question n'est pas pour moi de savoir, je n'ai aucune légitimité pour le faire, ou de dire que les bibliothèques doivent ou non renouer leur relation avec l'éducation populaire, même si elles en incarnent évidemment beaucoup les valeurs. Mais simplement, je crois qu'il y a dans la période actuelle des éléments qui peuvent nous amener à, disons, à comprendre que les questionnements, les problématiques qui se posent des deux côtés ont une certaine parenté, en tous les cas, des affinités qu'il faudrait essayer de dire. Alors, je ne voudrais tout de même pas, quand même, aussi, abandonner complètement toute référence à l'éducation populaire dans cet exposé. Et, justement, je vais parler, plutôt je vais adapter à la question qui m'est posée, des éléments que j'ai pu proposer au mois de février 2013, lorsque j'ai organisé avec la Ligue de l'enseignement et l'INJEP, l'Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire, à Grenoble, un colloque qui était intitulé « L'éducation populaire l'éducation populaire à l'épreuve de la mondialisation, les défis de la société créative, participative et interculturelle ». Donc, la question du renouveau de l'éducation populaire était évidemment au centre du colloque, avec là aussi une dimension historique, mais sur laquelle je ne reviendrai pas. Mon objectif, c'est en fait d'essayer de comprendre comment ce changement civilisationnel globalisé entraîne de mutations dans les systèmes de représentation et les pratiques sociales, pour que nous puissions nous situer par rapport aux grandes orientations qui aujourd'hui informent l'action publique et l'action collective. L'enjeu est donc de comprendre le monde complexe dans lequel nous entrons, sans céder ni à la nostalgie, c'était mieux avant, ni au déclinisme ambiant qui, quelquefois, saisit les intellectuels lorsqu'ils sont un peu mélancoliques. Donc, c'est dans cet ordre-là, dans cette tentative-là, que je vais me situer. Et dans ce colloque, j'avais proposé une sorte de problématique que je vais donc vous décliner ici, et qui avait été juste auparavant fait l'objet d'un chapitre, enfin de l'introduction du livre qui est ici en photographie. Alors, tout cela se passe évidemment sous fond de crise, le terme a été employé dans la présentation de Christian, de crise mondiale, de crise de la globalisation, de crise des politiques culturelles, et il faudrait évidemment faire un long excursus sur cet aspect de la crise, mais je ne le ferai pas, parce que ça me prendrait évidemment beaucoup trop de temps, et je pense que nous sommes tous bien informés des éléments de cette crise, même si nous ne partageons pas forcément tous disons la même compréhension de ses effets, et surtout si nous peut-être nous pouvons diverger sur la manière d'y remédier. Donc je vais plutôt me focaliser sur ce que j'ai appelé une recomposition des politiques culturelles, une recomposition qui est présenté ici de façon très très schématique autour d'un certain nombre de grands enjeux, le développement durable bien entendu, la question du pluralisme territorial avec la mise en place d'une réflexion sur le rapport entre métropolisation et régionalisation, c'est ce qui est au cœur du fameux acte 3 de la décentralisation qui, pour l'instant, n'a pas encore vu le jour. Et puis, toutes les évolutions technologiques autour des supports culturels et notamment de la culture numérique et des nouveaux comportements qu'elle induit. Alors, autour de cela, il m'est apparu que se sont organisés trois grands discours qu'on pourrait aussi considérer comme trois grandes stratégies, et que c'est autour de ces trois grandes stratégies qu'au fond, les institutions culturelles, comme l'éducation populaire, doivent, c'est à ces grandes stratégies que ces institutions doivent donner une réponse pour se situer au mieux et les utiliser au mieux. La question, vous allez le voir, n'est pas de savoir si on doit ou non les rejeter, mais plutôt comment on doit les utiliser pour qu'elles répondent aux objectifs que nous nous fixons. Alors, le premier de ces enjeux, c'est celui de la ville créative, le second, c'est celui de la ville participative, ou la ville civique, et le troisième enjeu, c'est l'organisation de la cité interculturelle, de la ville globale, de la ville interculturelle. La première cité, cette cité créative et la notion qui l'accompagne, ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. C'est une notion, évidemment, qui est un peu passe-partout. Elle fait référence essentiellement au thème que des sociologues anglo-saxons ont développé sur, par exemple, la ville créative avec Charles Landry, ou sur la classe créative avec Richard Florida, et puis sur la façon dont les économistes ont essayé de parler d'un capitalisme cognitif ou de société de la connaissance ou d'économie créative, toutes formules qui vous sont, bien entendu, tout à fait familières. Ce qui est intéressant, à mon sens, n'est pas qu'elles soient familières, c'est la façon dont les responsables politiques se sont emparés, ont fondu sur ces notions pour les utiliser dans leur stratégie, politique. Et toute la littérature, alors, on pourrait dire de marketing urbain, qui a fleuri autour de cette notion. Alors, la ville créative, c'est celle qui organise essentiellement des projets de prestige, d'élite, et qui les utilise parce qu'elles pensent qu'il y a des rentabilités, des externalités positives. Alors, on rentabilise les investissements, on rentabilise le musée, par exemple, qu'on a construit, un musée construit évidemment par un grand architecte, que ça génère des diverses externalités positives, positives sociales, dans l'acceptation étroite du terme, réduire la fracture sociale, assurer la cohésion, ou simplement médiatique, retour sur image. Et évidemment, cette manière d'organiser les politiques culturelles et éventuellement donc les institutions, de demander aux institutions culturelles de participer à cette stratégie, pose un certain nombre de questions. La ville créative n'est-elle qu'un mirage? Ou est-ce que c'est le nouveau voile idéologique pour justifier un retour à l'élitisme? Et comment cette créativité s'accorde-t-elle avec cette autre donnée fondamentale qui est apparue dans les dernières décennies et que j'appelle l'expressivisme ou l'expressivité, j'ai toujours beaucoup de mal à fixer mon vocabulaire là-dessus, mais qui est au fond la forme d'engagement sans normes, sans grammaire, sans vocabulaire conventionnel, qui est apparemment lié à la structure de la culture numérique et aux activités numériques. Et on ne sait pas très bien, les psychopédagogues nous disent des choses là-dessus, mais on ne sait pas très bien si elle était en refus des formes de transmission classique du savoir, et notamment de l'institution scolaire, ou bien si elle est une ultime aventure de la subjectivité. Toujours est-il que cette expressivité génère beaucoup de passion. Elle génère aussi des comportements ou des attitudes plus ou moins normatives. Alors, j'en donne deux que j'ai trouvées parce que je les ai trouvées justement parmi les bibliothécaires. L'une qui dit « Il ne faut pas avoir une conception sélective et élitiste de la société en choisissant de manière plus ou moins consciente le public auquel nous voulons nous adresser, car nous le jugerions digne des savoirs patrimoniaux dont nous sommes, un peu par hasard, chargés d'assurer la conservation et l'accès. Nous ne devons pas estimer être les dépositaires d'un savoir-faire et d'un professionnalisme nous autorisant à écarter non seulement les autres acteurs, mais aussi nos usagers potentiels. Et voilà, à mon avis, l'aspect le plus normatif. Nous devons également cesser de formuler des jugements à leur place et leur faire confiance à leur potentialité en suscitant des occasions où le public pourra s'exprimer, s'organiser, s'épanouir en utilisant les formes et les outils qui leur conviendront le mieux. Un autre disait, je l'ai entendu dans un colloque, quand les gens captent quelque chose dans un spectacle avec leur smartphone, alors que les professionnels utilisent de beaux cadrages, ça exprime un moment de leur vérité qui en soi a de la valeur. On ne peut pas l'opposer aux critères de qualité. Voilà deux jugements normatifs, mais qui ont évidemment un poids particulier dans la période que nous vivons. Alors, la stratégie créative pour les bibliothèques, bien, elles les connaissent déjà. C'est la bibliothèque centre de formation, c'est la bibliothèque telle que le définit par exemple David Lankes, la bibliothèque qui est un centre knowledge creation, création de savoir, ou c'est aussi la bibliothèque qui devient un tech center ou un cities lab. Bon. C'est un ensemble de propositions qui sont sur la table et qui ont déjà donné lieu à un certain nombre d'expérimentations. Et dans la littérature sur les bibliothèques, on peut en trouver pas mal d'exemples. La question qui est posée ici, c'est au fond que ces stratégies d'instrumentalisation ont un effet tout à fait important sur les politiques de la culture, parce que elle les hétéronomise en introduisant de la technologie et de l'économie, elle les transversalise en obligeant les secteurs à travailler les uns avec les autres, elle les désectorialise, elle les hybride, et donc elles sont évidemment de plus en plus mieux conformes aux exigences du nouveau management public. Mon deuxième problème, et évidemment, je passe très vite sur la question de la culture numérique, il y aurait beaucoup à dire sur les mythologies qu'elles entraînent, la mythologie du geek ou la mythologie de la démocratie électronique, ou même l'idée que l'on ne peut plus faire la révolution sans les réseaux sociaux. Ce sont des questions qui sont encore débattues et pour lesquelles les observations scientifiques ne permettent pas de conclure. Un des points quand même importants, et par exemple ça a été au cœur du débat sur la canopée, le projet de canopée au HAL, c'est de savoir si cette société créative s'adresse à une classe créative particulière qui représenterait selon Florida 17 ou 18% de la population, ou à la génération Y, qui est bon un peu plus large, mais qui représente quand même qu'une minorité de la population. Du coup, on peut se poser la question de savoir à qui s'adresse réellement ce lab modèle qui se diffuse maintenant beaucoup et si il y a ici de nouvelles structurations socio-économiques ou socio-professionnelles qui sont en train de se mettre en place. La ville participative serait en fait peut-être l'alternative à cette société créative. La ville participative fait référence, bien entendu, à la question du renouveau récent de la participation, renouveau porté par des philosophes comme Charles Taylor ou Axel Honneth, mais aussi on peut la voir comme une réaction à la thématique un peu envahissante de la ville créative, au danger d'une ville qui perdrait son âme, et elle serait donc une sorte de correctif à l'élitisme de la ville créative. Le problème, évidemment, c'est que lorsque l'on regarde le paysage social et culturel de la participation en France, on s'aperçoit qu'il est presque aussi saturé que le paysage de la société créative. Je veux dire par là qu'il y a une offre inflationniste de participation, une offre publique de participation qui est devenue inflationniste, au point qu'on ne sait plus exactement de quoi l'on parle et on ne sait plus si la ville participative est une aspiration des citoyens, ou bien si elle est une injonction, c'est qu'au fond, il y aurait même une nouvelle politique publique de l'offre participative et que, du coup, elle, évidemment, elle manquerait une grande partie de son objectif. Il n'empêche que, d'une certaine façon, la ville participative reconnaît qu'il y a dans la société des personnes, des groupes qui ont des attentes différentes, qui vivent dans des quartiers différents, qui sont des amateurs, qui sont des associations et qui souhaitent peut-être voir mieux reconnues et mieux prises en compte leurs aspirations culturelles. Alors, la bibliothèque de la ville, de la société participative, ne serait pas, selon moi, uniquement la bibliothèque qui associerait l'usager en lui faisant rédiger des tweets ou des blogs sur tel ou tel document ou lecture, etc. Je ne pense pas à cela, bien même si des expériences intéressantes peuvent être menées. Je pense plutôt à la bibliothèque en tant qu'institution de participation, institution dans la société pour permettre une participation publique plus forte, plus authentique. Au fond, est-ce que la bibliothèque peut devenir, redevenir, diront certains, une sorte d'agora ? Quand je pose cette question pour les bibliothèques, j'ai aussi dans l'esprit que c'est la question que se posent d'autres institutions culturelles, par exemple les musées, et par exemple notamment les musées ou les centres de sciences et de techniques. Parce que la société moderne se pose des questions autour de sa science et de ses technologies qui travaillent de plus en plus dans l'intime, dans le corps, dans le vivant. Et la manière d'animer ces centres, la manière de répondre aux attentes de des populations, eh bien, ça n'est plus simplement de faire une exposition classique ou nous montrer des collections, mais au contraire de transformer le centre de sciences ou le musée en une véritable agora. Donc il y aurait peut-être là une piste à suivre. Ma troisième stratégie, elle est autour de la ville globale ou de la ville interculturelle. Alors la question se pose immédiatement de savoir si la ville, là j'ai parlé de la ville et non pas de la société, si la ville interculturelle a une existence, c'est-à-dire si la ville est en tant que système politique ou la métropole en tant que système politique capable de gérer les questions de la diversité culturelle, questions qui sont très complexes à gérer, notamment au niveau national. Ma réponse est oui, on pourrait en parler longuement, mais ma réponse c'est que en réalité, ce sont les métropoles qui gèrent la diversité culturelle et pas les États. Les États n'ont pas cette capacité, on l'a vu, même quand on a cru, comme pour l'exemple du Canada ou pour l'exemple de l'Angleterre ou même pour l'exemple des Pays-Bas, qu'elles pouvaient le gérer. En fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'elles allaient à des désillusions, voire même des échecs. En réalité, la diversité se joue dans la métropole, dans la proximité qu'autorise la métropole. Alors, la question de la ville interculturelle ou de la ville globale, ce n'est pas simplement la gestion sociopolitique ou socioculturelle de la diversité, c'est aussi la manière dont la métropole se projette dans la globalisation, devient elle-même un acteur de la globalisation, donc soit en accueillant et donc en se préoccupant d'être hospitalière à l'égard de ceux qu'elle accueille, soit en s'exportant, en montrant ce qu'elle fait, en montrant ce qu'elle est dans les autres villes du monde. Et donc, mon problème ici, il est moins de discuter de qu'est-ce que c'est que la globalisation culturelle en termes de nivellement ou au contraire en termes d'opportunités de nouveaux objets, de nouveaux produits, mais plutôt de voir quelle est la tendance stratégique qui nous met et qui met donc les institutions culturelles en relation directe avec un monde globalisé et non pas simplement en relation de médiation ou simplement en état de passivité à l'égard de la globalisation culturelle. Encore faut-il d'accord pour avoir de l'interculturalité une vision plus générale. Et moi, ma vision n'est pas simplement la vision traditionnelle du rapport entre la culture d'ici et la culture d'ailleurs, mais elle intègre des postulations culturelles extrêmement nombreuses, la culture de qualité, la culture de divertissement, la culture d'élite, la culture populaire, la culture nationale, les cultures régionales, les cultures rationnelles et les croyances. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que si on fait un sondage, et je le ferai pas, mais si on faisait un sondage, on s'apercevrait que, y compris dans une assemblée dont, disons, la dimension cognitive est beaucoup plus rationnelle que dans d'autres types d'assemblées, eh bien, on aurait aussi diversité de postulations culturelles qui est inscrite au cœur de chacun d'entre nous, qui fait notre humanité. Et la grande chance, ou la grande découverte des années 2000, et sûrement d'ailleurs que cette découverte est due à l'expansion extraordinaire du numérique, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons accepter, nous pouvons dire que nous sommes nous-mêmes interculturels au sens où je viens de définir. Donc, vous voyez, il y a ces trois options qui sont sur la table. Le grand risque qui est associé à ces trois stratégies, c'est qu'elles se pensent en extériorité. Et si elles se pensent en extériorité ou en alternative les unes aux autres, alors elles vont aider à la segmentation des pratiques et des publics dans la métropole. Elles vont accentuer cette segmentation. La ville deviendrait alors, selon moi, inconsistante culturellement parce que, justement, elle serait incapable de faire les liaisons, les ponts, d'organiser les synergies, les fluidités qui fait réellement le substrat, le tissu d'une ville. Donc, au-delà du rappel rituel de l'effet positif de la participation culturelle sur la cohésion sociale, au-delà de la stratégie marketing de la société créative, au-delà même de l'aspiration de tous à rejoindre cette société créative, la société créative est maintenant quelque part aussi dans les quartiers qui sont des quartiers créatifs, dans les territoires ruraux qui sont des territoires créatifs, bon, tout le monde est créatif, je crois qu'il faudrait mieux articuler ces différentes stratégies. Et pour les articuler, j'emploierai volontiers l'expression de démocratie créative, qui est une formule que je n'ai pas inventée, qui est une formule que j'emprunte au philosophe John Dewey, pour sortir des difficultés de définition de la participation, de la délibération, mais aussi pour mettre davantage l'accent sur la dynamique et sur le sens qui est porté aujourd'hui, plutôt que sur les procédés, les dispositifs et les instruments par quoi on aborde aujourd'hui la question de la participation ou la question de la délibération. Alors, cette articulation la culture nouvelle, de la démocratie créative, elle se fait évidemment sur le fond de ce mode d'action publique sur lequel je n'ai pas insisté parce que je crois que vous le connaissez assez bien. C'est un mode d'action publique qui est interterritorial. La coopération des bibliothèques n'a pas attendu la mise en place des schémas de coopération intercommunale. Elle est transversale parce qu'on travaille avec d'autres domaines, elle est partenariale, ça reste une chose qui est bien partagée aujourd'hui. Donc ce mode d'action-là doit se confondre, doit s'articuler avec les trois stratégies que j'ai indiquées, de façon à pouvoir préciser un peu quelles sont les orientations possibles de chacune des villes de chacun des territoires que l'on peut regarder, comparer les uns avec les autres. Donc, c'est le schéma que je vous donne là est un modèle d'analyse des politiques culturelles, mais c'est aussi un modèle d'analyse de chacune des institutions culturelles qui participent à cette politique, dans la mesure où elle mettrait l'accent plus ou moins sur l'aspect créatif ou l'aspect participatif ou l'aspect global et où elle emploierait des éléments du mode d'action publique transversal, partenarial ou territorial. Du coup, la question qui se pose pour terminer, c'est de savoir si on peut donner une consistance à cette question de la nouvelle bibliothèque, la bibliothèque Agora, comme je l'ai appelée, ou le centre d'intelligence publique, ou ce que l'on trouve dans la littérature comme étant la bibliothèque troisième lieu. Donc en fait, on parle beaucoup dans le domaine qui est jumeau du vôtre, c'est-à-dire dans le domaine des musées, on parle beaucoup d'un troisième âge de la muséologie. Donc on peut évoquer aussi un troisième âge ou un troisième lieu pour la bibliothèque. Quelqu'un a dit que c'était un concept rafraîchissant. J'aime beaucoup la formule parce que... Je le cite, dans cette approche, ce ne sont plus les collections qui sont au cœur de la bibliothèque, mais les usagers. On se préoccupe davantage de la convivialité des espaces et on y développe de nombreux et dynamiques programmes d'animation et de médiation en partenariat avec la communauté locale. C'est un programme. Je pense, pour ma part, que c'est ce programme qui est en fait déjà assez ancien. J'ai vu que le livre séminal de Ray Oldenburg date de 1889. Donc, c'est peut-être quelque chose qui progresse lentement, mais qui est peut-être un facteur, disons, de recomposition. Alors, cette bibliothèque troisième lieu, pourquoi pas quatrième lieu, cinquième lieu, je préférais donc l'appeler le centre d'intelligence publique voué à une meilleure intelligibilité du monde. Voilà, je suis maintenant parvenu au terme de ma discussion. Vous avez compris que les bibliothèques, tout comme les autres institutions culturelles, tout comme l'éducation populaire, ont un commun défi à relever. Ce défi, il est plus important que toute autre considération à mes yeux. C'est celui de la toujours plus forte segmentation du monde. Je n'en ai donné qu'une faible idée à partir de mon modèle des trois stratégies, mais il est clair que le défi de retotaliser le monde à partir du foisonnement épars des informations et des documents pour les bibliothèques, ou de faire la synthèse en une pratique sociale des activités éparses qui sont celles du monde des loisirs pour l'éducation populaire, les activités éclatées, il est clair que ce défi, il est toujours plus présent et plus fort devant nous. Cela concerne donc nos deux institutions. Sans cette synthèse, le projet de l'éducation populaire et des bibliothèques de construire des citoyens émancipés et libres dans leur choix collectif resterait encore une fois une utopie. Je vous remercie.
Merci à Guy Sèze. Je vais passer maintenant la parole à Léon Visnia. Je précise juste que pour les échanges, pour les raisons pratiques que vous comprenez très bien avec la question des horaires à tenir, je vous demande de noter vos questions et on passera le micro après la troisième intervention. Et l'avantage de cette formule, c'est aussi qu'une même question peut obtenir des réponses de nos trois invités. Léon.
Permettez-moi de remercier d'abord Christian Massot et Jean-Luc Duval de la médiathèque de l'Homme. Je vais vous parler de Cité Philo, qui est une manifestation qui est née dans le Nord-Pas-de-Calais, qui se déploie sur l'île et toute la région du Nord et de nombreuses villes du Pas-de-Calais. Cité Philo, c'est une sorte de festival en novembre. Un festival de philosophie. On dit souvent que le philosophe, c'est le spécialiste des généralités. Peut-être parce qu'il est le spécialiste des généralités, Il a une compétence particulière à penser les problèmes dans leur relation avec la cité, les problèmes dans leur transversalité. Hein. Cité Philo est une manifestation qui a 17 ans. Hein. Nous allons fêter la 17e édition en novembre prochain. C'est une manifestation inventée par des francs-tireurs qui n'étaient liés ni à l'université, ni aux collectivités territoriales, ni à quelque groupement économique que ce soit. Et c'est ce qui a fait, je crois, qu'elle s'est individuée dans une singularité absolue, singularité que je vais essayer de faire valoir devant vous maintenant. D'abord, si on regarde, si je suis capable de mettre Cité Philo à distance comme un objet, hein, bien que j'en sois un des fondateurs et un des participants, je vais essayer de regarder ce qu'on a fait, comme si c'était un objet extérieur. Alors, vous regardez le programme de Cité Philo en allant sur le site www.citéphilo.org, et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez à peu près une centaine de manifestations. Entre 69, le nombre le plus peut-être modeste, et 105, le nombre de manifestations le plus important, qui se déroulent sur 3 semaines en novembre, dans des lieux différents. Ces lieux, c'est aussi bien des bibliothèques que des librairies, que des théâtres, que des cinémas, que le couvent des Dominicains, par exemple, où nous sommes chaque année depuis 5-6 ans, qu'on est allé aussi à l'atelier de mécanique EDF Dunkerque, où on a fait des séances pour les travailleurs de cet atelier. Donc ce sont des lieux absolument divers, imprévisibles. On ne sait pas d'ailleurs lors de l'édition 2013, nous n'investirons pas un lieu tout à fait nouveau, par exemple comme la Galerie des sciences naturelles de Lille. Voilà. Donc on cherche des lieux dans la cité. Et puis, si vous regardez le programme, vous verrez à chaque fois présentation, modération, vous verrez des noms inconnus, inconnus de vous. Eh bien, ces noms, ces noms de modérateurs, de présentateurs, ce sont tous, presque tous, pratiquement tous, 90%, des professeurs de philosophie des classes terminales et de Cagnes de la région Nord-Pas-de-Calais, qui constituent la masse militante de la manifestation. Donc c'est une manifestation qui a été constituée par des francs-tireurs et qui est maintenant composée, l'association est composée de professeurs des classes terminales et de Cagnes de la région Nord-Pas-de-Calais et qui travaillent dans tous les lycées, peu s'en faut, de la région. C'est évidemment un trait caractéristique. Ce n'est pas une manifestation qui est le résultat d'un plan marketing. Ce n'est pas une manifestation qui a été projetée par un responsable de la culture locale ou régionale quelconque. C'est une manifestation qui est née de la volonté de gens à la conduire et à la développer. Et qui ensuite a rencontré l'appui des collectivités territoriales, des institutions culturelles les plus diverses. Un mot des partenariats. Les partenariats sont extrêmement ouverts. C'est bien sûr, je le répète, les bibliothèques. Là, nous sommes une manifestation du livre, en présence du livre. Il n'y a pas une séance de Cité Philo où le livre n'est pas présent. Depuis quelques années, la bibliothèque Jean Lévy de Lille
nous fait l'amitié de présenter absolument tous les livres de la manifestation, et c'est un volume considérable, puisqu'il y a une centaine de rencontres, et quelquefois 3 à 4 livres par rencontre, plus les autres livres des intervenants. C'est donc un effort tout à fait considérable que fait la bibliothèque Jean Lévy de Lille, et nous l'en remercions. La FNAC, pendant un temps, a fait cet effort aussi de présenter tous les livres de Cité Philo, mais il y a moins d'endurance dans les institutions privées que dans les institutions publiques. Et les difficultés à, à acheminer les livres semblent plus grandes, et ainsi de suite. Si bien que la FNAC a renoncé, qui reste un de nos partenaires fidèles, a renoncé à présenter tous les livres de la manifestation. Les partenariats, ce sont des associations. Les associations de terrain, associations d'éducateurs de rue, associations de sourds et muets, associations qui travaillent dans les prisons. Une de nos plus émouvantes interventions fut celle de Bernard Stiegler, précisément, que nous avons invité à la maison d'arrêt de Douai. Et Bernard Stiegler, dont peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire, qui a fait l'expérience de la prison, qui est devenu philosophe en prison, et qui est retourné en prison à notre invitation à Douai. Et ça a été un moment un peu magique, je ne vous le cache pas. Je vais vous en parler parce qu'il représente bien l'esprit dans lequel nous travaillons. Nous ne serions pas allés dans cette maison d'arrêt si auparavant les détenus n'avaient pu, avec l'animateur d'un atelier pérenne tout au long de l'année en prison, s'emparer du livre de Bernard Stiegler qui s'appelle « Passer à l'acte » et se l'approprier. Si bien que quand Cité Philo est venu s'est présenté en la maison d'arrêt de Douai pour cette séance, les détenus avaient lu le livre, l'avaient travaillé avec l'animateur plusieurs mois auparavant. Et ça compte, ça compte. C'est une séance qui n'a pas été filmée ni enregistrée, et c'est très dommage. C'est dû aux contraintes très fortes qui pèsent dans ce lieu. Mais vous savez qu'une cité, la qualité d'une cité, si l'on en croit Michel Foucault, se juge à la qualité de ses prisons et de ses fous, ou de ses de ses hôpitaux psychiatriques, du sort qui est réservé aux personnes dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques. Et à ce compte-là, on peut dire que la qualité de notre cité est faible. Maintenant, je voudrais aborder la question des médiations et des dispositifs. Vous l'avez compris, dans Cité Philo, quelqu'un lit quelqu'un d'autre et l'invite. Ce n'est pas une programmation qui tombe d'en bas, ou d'en haut plus exactement, ce n'est pas une programmation qui tombe d'en haut, mais c'est une programmation qui résulte d'une discussion entre des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont envie de rencontrer un philosophe, un sociologue, un romancier, un plasticien, un danseur, etc. Alors vous allez me dire, mais ça, c'est quoi ce type de philosophie? Bien, c'est un type de philosophie au sens large, au sens où Pierre Macherel a défini, par exemple, la philosophie qui est déposée dans un grand nombre de textes, de disciplines, d'œuvres de l'esprit, et dont les auteurs sont capables de parler. C'est aussi, bien entendu, la philosophie au sens disciplinaire, celle de l'université, celle de la tradition philosophique. Cité philo n'exclut ni la tradition, ni la philosophie au sens large. Elle est une synthèse de ces deux ambitions. Les médiations, ce sont des médiations en direction des auteurs ou de nos invités, et ce sont des médiations en amont pour construire telle ou telle manifestation adressée. Vous voyez, quand vous faites un programme et que vous lancez le programme dans la nature, des journaux, des affiches, etc., bon, vient qui sait, qui veut, qui peut, mais ça n'est pas une manifestation spécialement adressée. C'est une manifestation dont on dit qu'elle est accessible à tous, mais dont chacun d'entre nous sait qu'elle n'est pas nécessairement accessible à ceux qui considèrent qu'elle n'est pas pour eux. Or, précisément, une des caractéristiques de Cité Philo, c'est que très tôt, nous nous sommes posé la question de nous demander à qui on pouvait adresser cette manifestation. Et nous n'avons trouvé, très modestement, que des réponses partielles, intermittentes. Parce qu'à tel moment, telle année, nous avons pu, avec telle association, construire une séance. Et donc, ça, c'est la médiation en amont pour la construction de la séance. Hein ? Et vous verrez, dans les programmes de Cité Philo, en partenariat avec les Dominicains de Lille, en partenariat avec l'Association des éducateurs de rue, en partenariat avec telle association qui intervient dans les prisons, en partenariat. Je ne peux pas vous faire la liste. L'Association des gays et lesbiennes de Lille, nous n'avons mis aucune exclusive à notre ambition qui était de constituer des espaces publics libres où la parole se déploie librement, sans contrainte. Mais une parole qui se déploie à partir de savoir constituer et qui permet un échange fécond. Du moins, c'est l'espoir que je forme. Des dispositifs aussi, la philosophie au sens large dont je vous parle, c'est toujours la philosophie en intersection avec ce qui n'est pas elle. Donc, vous trouverez dans Cité Philo des philosophes qui viennent avant ou après des séances de cinéma, des philosophes ou des hommes de théâtre qui viennent parler avant ou après une pièce de théâtre. Vous aurez des musicologues assez philosophes pour nous faire éprouver les intentions et partager les intentions de telle œuvre musicale. Et vous trouverez les séances classiques consacrées à la faculté, à la critique de la faculté de juger de Kant, à l'aventure de Gilles Deleuze, et ainsi de suite. Il y a un fort tropisme de philosophie contemporaine dans Cité Philo, je ne vous le cache pas, car nous nous attachons à une philosophie du diagnostic. Nous sommes sensibles à essayer de proposer à nos concitoyens des diagnostics plutôt que du soulagement, de l'accompagnement vers la mort. Ou voilà, ce qui n'est pas non plus exclu. Mais ça n'est pas le cœur de notre manifestation. Et donc, j'en viens maintenant à mon troisième point. Je vous ai parlé de la manifestation telle qu'elle se présente. Je vous ai parlé de quelques singularités de la manifestation. Et maintenant, je vais essayer de vous parler de, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Au fond, on veut tous faire des manifestations, on veut tous organiser des espaces citoyens sont voués à tous, qui sont accessibles à tous, mais on n'y arrive que très difficilement et parfois on n'y arrive pas du tout. Et il faut le dire, il faut arrêter de se raconter des histoires. On voudrait bien avoir les gens qui ne viennent jamais à telle ou telle proposition, qui ne répondent jamais à telle ou telle proposition. Eh bien, pour qu'ils viennent, il faut construire leur venue. Parce que à eux, l'information générale ne suffira jamais. L'information générale qui fait que les gens cultivés, bien élevés, reconnaissent notre travail, heureusement. Alors, ça nous fait chaud au cœur de les voir régulièrement sans qu'on ait produit beaucoup d'efforts pour qu'ils assistent à ce que nous proposons. On est très content qu'ils soient là. Mais voilà, il manque quelque chose, voyez. Il manque ceux à qui ces manifestations pourraient procurer un intérêt et qui ne sont pas là. Pour qu'ils viennent, et quand je dis pour qu'ils viennent, je suis obligé d'imaginer que ça ne c'est pas non plus pour ils. On ne sait pas qui sont ils. Si on ne passe pas par la médiation d'associations constituées sur le terrain, on ne va pas les faire venir. Hein ? Si on n'était pas passé par l'association culturelle de l'hôpital de Lille, on n'aurait pas les malades, les médecins, les infirmières à nos séances à l'hôpital de Lille. Voyez ? Donc il y a une médiation en amont, puis il y a une médiation au moment de ce qu'on propose, quoi que ce soit. Et cette médiation, elle doit résulter de, je dirais, de l'amitié, de l'amour, d'un intérêt au-delà d'un intérêt professionnel. Et chaque fois qu'on a, avec des bibliothécaires, partout dans le Nord-Pas-de-Calais, imaginé quelque chose, on ne s'est pas simplement adressé aux professionnels. On s'est adressé aussi aux militants qui ne dort que d'un œil et qui gît dans chaque bibliothécaire, comme en nous-mêmes. Voilà. Aller au-delà des régularités, des routines professionnelles qui sont absolument indispensables. Sans ces routines, sans ces régularités, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de cité philo, il n'y a rien. Il n'y a pas d'institution. Mais si on se contente de ces régularités, alors on ne trouve pas de chemin nouveau et on ne peut pas faire signe à ceux qui considèrent que ce qu'on leur propose n'est pas pour eux. Je vous remercie.
Merci à Léon Visnia. Vous appréciez, je pense, comme moi, cet apparent paradoxe d'être en plein cœur du sujet sans avoir prononcé une seule fois le titre de la session, et je le remercie. Et par contre, Renaud est en train de rejoindre le pupitre. Je pense que là, le terme va revenir, mais nous serons toujours en plein cœur du même sujet. Merci encore à Léon.
Bonjour à toutes et à tous. Tu me donnes combien de temps, Christian, très franchement
que... 20 minutes, ah, comme non, pour ça... les autres, sachant que non, chacun triche et en rajoute 5.
Non, mais je crois que tu voulais qu'il y ait un temps d'échange, je crois, oui. À la fin. Bon, je vais, peut-être voilà. Alors dans ce cas-là...
On doit rendre impérativement la salle à moins le quart.
D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller très vite, quitte à être un peu caricatural, et comme ça, ça laissera du temps pour les questions et pour l'échange. Voilà. Même si la salle peut-être est moins propice qu'hier à l'échange. Enfin, pour ceux qui étaient là hier, vous allez peut-être croire que je suis jamais content. Hier, la salle était un peu petite pour l'Assemblée. Là, c'est l'inverse. Vous êtes un peu loin, mais voilà. Néanmoins, on va essayer quand même de pouvoir échanger. Renaud Ayoutz. Comme Christian le disait, je vais présenter une initiative sur laquelle j'interviens plus directement, ce qui à la fois me gêne un peu, mais néanmoins j'ai toujours beaucoup de plaisir à en parler, puisque je l'ai animée pendant 6 ans et je la suis encore maintenant plus en tant que spectateur qu'en tant que participant direct. Et je voulais saluer du coup le bibliothécaire qui a pris ma suite sur le territoire sur lequel je travaillais, qui s'appelle Patrick Barthet et qui a repris vaillamment le flambeau alors qu'il est arrivé... et qu'il a fallu monter ça très rapidement la 7e année. Donc la petite université libre et populaire de Tence, c'est en Haute-Loire. Pour celles et ceux qui connaissent les films de Raymond Depardon, Profil paysan, il y en a une partie qui se passe en Haute-Loire. Donc ça vous donne une idée du paysage à la fois humain et topographique, géographique. Donc j'y suis arrivé en tant que bibliothécaire en 2005 et j'avais constaté qu'il y avait... c'est un territoire qui a des spécificités avec une implantation d'une forte communauté protestante de longue date, un intérêt pour le livre et la culture, bien que ce soit un territoire rural, et puis une histoire de la diffusion du savoir liée à l'exemple du collège Cévenol au Chambon-sur-Lignon, hein, qui est donc sur ce territoire-là, avec une tradition d'ouverture, d'échange et d'intellectuels qui avaient essayé d'animer des débats publics avec la population, même avant-guerre, enfin avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui d'ailleurs a expliqué en partie la façon dont la résistance civile a pu se développer à l'initiative des pasteurs, notamment, pas seulement. J'ai fait le constat qu'il y avait beaucoup d'activités. Il y avait quelques activités de ce genre, mais qu'elles étaient uniquement l'été, au moment où les résidences secondaires sont là, et centrées sur l'histoire locale, l'histoire du protestantisme, c'est l'histoire de ce territoire. J'ai constaté, en étant bibliothécaire, en étant en contact avec le public en permanence, qu'il me semblait que les gens qui vivaient sur ce territoire n'étaient pas différents de ceux avec qui j'ai pu travailler à Lyon ou en région parisienne auparavant, et qu'ils avaient la télé, la radio, qu'ils lisaient, et qu'ils étaient, comme moi et comme tous, interrogés par effectivement la complexité, le monde tel qu'il va, tel qu'il allait à l'époque, et que c'était peut-être de notre devoir en tant que bibliothèque de proposer aussi une forme de lecture du monde, voilà, donner à essayer de rendre intelligibles les événements sans se centrer uniquement sur l'identité à laquelle, en plus, voilà, qui pouvait être en partie plus construite et fantasmée que toujours partagée. Donc j'ai fait le pari de mettre en place des conférences grand public et gratuites sur ce territoire rural qui traitaient de tout sauf de l'histoire locale et de l'identité locale. Donc en fait il n'y avait pas de thème à part une définition en creux de le faire toute l'année sauf en été, au moment où les résidences secondaires sont ouvertes. Voilà. Donc, ce n'était pas par provocation, c'était simplement pour être à la fois en complémentarité et aussi dire il n'y a pas de raison que le service public concentre tous ses efforts au moment où les résidences secondaires sont là et sur une thématique qui était peut-être déjà bien traitée. Donc, c'était aussi dans une logique un peu d'écosystème, quoi, de biodiversité, je dirais, intellectuelle. J'ai créé ça en 2006 et je vais donner d'abord quelques chiffres et puis après je vais expliquer une particularité forte, pourquoi j'ai à la fois retenu le terme d'université populaire et en même temps quels étaient ce que j'ai pris en compte au départ. D'abord, ça fait 7 ans que ça existe, il y a environ 7 conférences par an, donc ça fait qu'une par mois, donc vous voyez, on est loin d'une université sur tous les thèmes, donc sauf ce qui est lié à l'histoire locale, on va dire. Il y a eu environ 6000 auditeurs en 7 ans, donc ça fait environ 120 personnes en moyenne par conférence. C'est gratuit pour le public, ce sont des intervenants tous bénévoles. Et c'est financé par une commune au départ, la commune de Tens en l'occurrence. Et puis petit à petit, bien sûr, par jeu des subventions, par le département, la région, la DRAC, etc. Enfin, je dis etc. Non, parce qu'il y a aussi des sponsors, notamment le supermarché local et puis le libraire qui aide en lui aussi présentant les livres toute l'année des personnes qui interviennent. Là, voilà, c'est le programme de la saison 6, dont je me suis occupée. Alors, pourquoi, quand je dis spécificité, lesquelles, voilà, c'est je me suis fait un devoir de ne pas politiser l'initiative, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un aspect militant quand on veut populariser le savoir, mais néanmoins par rapport à ce qui existe dans la myriade des, enfin dans la galaxie des universités populaires que Christian a rapidement présenté tout à l'heure, il y en a qui sont ouvertement, qui tiennent, voilà, qui en donnent une lecture politisée du monde et des propositions d'action. Moi, j'ai considéré que, étant donné que c'était mis en place par voilà, une puissance publique, il fallait affirmer que l'acte politique fort et premier, c'était d'abord de rendre le savoir accessible à tous, mais le savoir dit, on va dire, académique, voilà, qui est dans les universités, dans les livres et dans les débats entre dans les débats civils, quoi. Donc voilà l'idée. C'était aussi une ligne à la fois par déontologie et aussi par refus de cliver à l'intérieur de la population ceux qui auraient été déjà convaincus que à partir d'une ligne politique donnée qui aurait été forcément un cercle parmi d'autres, et on aurait exclu d'une certaine manière tous les autres. Donc voilà, c'était une règle pour que ça devienne ni non plus une société savante, un club ou un courant de pensée. Alors, donc du coup, il y avait aussi des enjeux humains parce qu'il s'agissait, tant dans les thématiques que dans la façon de présenter le savoir, d'essayer de bousculer un peu les idées reçues, c'est-à-dire beaucoup de, évidemment, les premières idées reçues dans la population, c'est pas pour moi, c'est pour les intellos, c'est pour ceux qui ont fait des études, etc., etc., c'est compliqué. Mais aussi le côté contre lequel je voulais lutter, qui est le côté on nous cache tout, on nous dit rien, on peut pas accéder à l'information, ou l'information à laquelle on accède, de toute façon, il y a toujours des dessous cachés, et en fait, toutes les décisions se prennent sans nous, et on n'est jamais... Donc, voilà, l'idée c'était de dire aussi non, le savoir il est là, vous pouvez y accéder, après que les processus politiques soient des rapports de force et qu'il faille effectivement se préoccuper, enfin s'impliquer pour qu'on ne soit pas simplement extérieur aux décisions, oui c'est une réalité, mais l'accès à l'information non, il n'est pas si malaisé si on veut un peu s'en donner la peine. Mais voilà, donc voilà, j'étais là plutôt pour faire jouer ce rôle de tremplin. Du coup, on était complètement, il me semblait, dans le rôle d'une bibliothèque. Néanmoins, toujours par volonté de ne pas s'adresser d'emblée à un public qui restreint, on a essayé de ne pas faire ça dans la bibliothèque et de, au début, masquer quelque part par artifice le lien avec la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on a fait ça dans le cinéma du village. Il y avait peu de mentions de la bibliothèque, à part le fait que j'animais ça, mais sur mon temps personnel en fait, en tant que bénévole, cette université populaire, on a décidé de ne pas afficher la bibliothèque immédiatement au niveau de l'affichage, quoi. Et ensuite de créer dans la durée, au cours de cette année, des ponts entre la bibliothèque et cet événement. On a vu des publics, voilà, qui se sont croisés, qui venaient plutôt à la pulpe et pas à la bibliothèque, et réciproquement, et puis petit à petit des passerelles qui se sont faites d'une manière ou d'une autre. Voilà, mais ça a été aussi un choix, un dispositif, hein, comme disait Léon Vichner. Donc simplement aussi pour, avant de pouvoir échanger et de dire encore une petite conclusion, dire aussi que je voulais dissiper un malentendu, comme d'autres d'ailleurs ont pu l'écrire. On a choisi le terme d'université populaire, un peu adapté pour faire plus léger, rafraîchissant peut-être. Oui, d'ailleurs, le citron, voilà, et, comme vous avez pu le voir, choisi à dessein aussi. Dans l'université populaire, moi, il y a une forme de tension, bien entendu, entre ces deux mots, mais je crois que, avec d'autres, dans l'initiative en tout cas que j'ai menée, c'était pas, l'adjectif populaire n'était pas à entendre au sens des groupes sociaux, donc des classes populaires qui peuvent être dominées sur le plan culturel ou économique, hein, même si c'est un horizon de travail de toucher toutes ces populations, mais c'est plutôt dans la référence au peuple au sens républicain, au sens politique républicain, le peuple comme base de la souveraineté. Donc, comme disait Christian, en référence à Condorcet et bien d'autres, le peuple informé et instruit, pour que l'idéal républicain puisse se construire. Donc c'est ça que nous entendions dans l'université populaire, et c'était dans ce sens-là que la commune l'a porté, et que la bibliothèque pouvait aussi naturellement jeter des ponts avec cette initiative. Mais ça sous-entendait aussi de pouvoir s'inscrire dans une forme d'ouverture qui s'est traduit aussi par exemple, alors le site, vous pourrez aller le voir, il a subi quelques problèmes après mon départ, mais il est, voilà, donc il est simple et modeste, mais on peut quand même trouver les enregistrements en ligne. Donc ça a sous-entendu notamment d'enregistrer toutes les conférences et de les mettre à disposition sur Internet.
Des maths de troisième.
Voilà, comme vous pourrez l'écouter si ça vous intéresse. Donc pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que il y a deux réflexions qui m'ont un peu éclairé, enfin qui m'ont permis aussi de mesurer le chemin parcouru. Quand j'ai créé la Pulpe en 2006, il y a des bénévoles du cinéma qui disaient, mais là, les professeurs qui t'ont dit qu'ils viendraient bénévolement dans le cadre de ton cycle, ils tiendront pas leurs promesses. On mérite pas, nous, sur notre territoire, d'avoir des professeurs de la Sorbonne, de Paris, qui viennent donner des conférences. Bon, ils ont dit ça pour te faire plaisir, mais ils annuleront au dernier moment. Donc, il y avait ce complexe d'infériorité dans les campagnes, je dirais, qui m'avait assez heurté. Donc, les personnes disaient ça. Non, nous, on mérite pas que des universitaires viennent s'adresser à nous. Voilà. Je dis, mais si, enfin, on verra bien. Et puis bon, bah, ça, le pari a réussi. Donc on a eu vraiment quand même un petit succès local là, avec 120 auditeurs par conférence. Et à la fin, un peu avant que je parte, il y a une auditrice, alors qui était une personne qui vit sur le territoire, bon, qui était quand même là pour le coup quelqu'un qui aimait lire, qui était plutôt disposé à ce genre d'initiative, mais néanmoins qui m'a dit, qui venait un jour à la conférence, m'a dit, bon, je sais même pas le thème du jour, j'ai pas regardé le programme, mais je viens à chaque fois parce qu'on vous fait confiance. Et moi, ça m'a fait prendre conscience que créer de la confiance entre une institution publique et la population sur ces thématiques-là, ça ne veut pas dire créer du consensus, puisque on n'était pas là pour asséner des idées sur lesquelles il faudrait absolument être tous d'accord ou des vérités qu'il ne faudrait pas remettre en cause, puisque de toute façon, même le savoir en train de se faire, il sera peut-être remis en cause. Et enfin, c'est même souvent le cas dans 5, 10 ans, 20 ans, etc. Donc ça ne voulait pas dire créer du consensus, mais ça voulait dire créer de la confiance pour que le débat puisse s'instaurer, parce que sinon, voilà, si on entre sur un ring de boxe en sachant que l'autre va sortir un couteau, les règles ne sont pas respectées de part et d'autre et c'est pas la peine de s'engager. Donc le fait de recréer de la confiance par rapport à la réflexion que je disais tout à l'heure sur cette méfiance qui vire à la théorie du complot parfois chez toute une partie de la population, ça m'a paru très important, et pas dans les solutions encore une fois, mais dans la façon dont on peut propulser, on va dire, des contenus. Et puis une dernière anecdote aussi, mais très rapidement, qui illustre bien par contre le risque qui peut arriver, je pense, pour toute initiative, de tomber dans une forme un peu de rente de situation, d'installation, d'institutionnalisation, hein, qui peut guetter. Il y avait aussi des sociétés savantes qui existaient localement, mises en place par des érudits, professeurs d'université à Saint-Étienne ou au Puy-en-Velay, peut-être un peu, je dirais, souvent, en plus c'est la Haute-Loire, hein, donc plutôt conservateur, on va dire, qui m'en ont voulu d'avoir mis en place cette initiative sans passer par leur association, leur société savante. Donc j'avais reçu un courrier quand je l'ai lancé, qui m'a dit, vous nous avez pas consulter pour mettre en place votre initiative. Mais bon, cela étant, nous n'avons pas le monopole de du débat public et de la pensée. Bon, je le remerciais de faire les questions et les réponses, du coup, dans son courrier, ce qui m'a évité une réponse. Mais voilà, sachez que c'est pas tout à fait normal, très loyal, alors qu'en l'occurrence, ces conférences ne se passaient pas sur le territoire, elles se passaient à 20 ou 30 kilomètres de là, les jeudis après-midi à 14h, donc vous imaginez le public qu'on peut toucher un jeudi après-midi à 14h, voilà, alors que nous on les faisait bien entendu le samedi gratuitement voilà, dans un cinéma. Donc je crois que c'est aussi contre ça que je voulais lutter. Moi j'avais envie de dire c'est à nous de nous approprier. Là je l'ai fait parce que j'étais bibliothécaire, j'ai pu le faire en m'appuyant sur une commune, etc. Mais c'est possible de le faire et il ne faut pas attendre ou bien s'auto-censurer parce qu'il y en a qui, certains seraient plus légitimes que d'autres, quoi. Voilà, très rapidement. C'est un peu peut-être décousu, mais c'est pour aller vite.
C'est du vécu. Merci, Renaud. Merci de nous rejoindre à la table. Nous avons deux porteurs de micro qui peuvent circuler dans les allées pour recueillir vos questions, interventions, suggestions, réactions. Le temps que la première question naisse, je voulais dire aussi que j'ai fait allusion à une journée d'études organisée par le groupe Rhône-Alpes ABF en novembre dernier à Grenoble. Nous avions invité une autre collectivité qui avait organisé elle-même une université populaire à partir de la bibliothèque. C'est la CAPI, la communauté d'agglomération des portes de l'Isère, qui est située entre la frontière du Rhône et Bourgoin-Jallieu dans le nord Isère et autour de Villefontaine, de la Ville Nouvelle et des villages associés. Et qui était aussi un autre exemple. Donc l'idée était, comme ça, de façon un peu pointilliste, de montrer que de la métropole lilloise au village de Haute-Loire, en passant par des collectivités moyennes, cette problématique d'une université populaire prise en compte par des collectifs plus ou moins institutionnels, en fait, ce n'est vraiment pas une question de taille. On a vu à travers le dernier exemple de Renaud que c'est d'abord et avant tout une question de projet et de méthode, d'envie, de capacité à identifier les envies et les mettre en rapport avec des publics à identifier également, je dirais presque à construire, non pas comme entité abstraite, mais comme on parle de cible quand on fait du marketing, là c'est peut-être un peu désobligeant, mais quelque part en fait c'est l'efficacité qui prime, c'est-à-dire on ne fait pas un programme ex nihilo, on construit un programme à partir de groupes que l'on identifie comme étant des publics et qui ne soient plus potentiels mais qui soient des publics réels, des publics réceptifs et éventuellement réagissants. Voilà, les micros sont en place. Ceci dit, il est possible que nos invités aient envie de réagir sur les interventions, sur leurs propres interventions des uns des autres.
Moi, je voudrais juste préciser, parce que j'ai omis de le dire, que la manifestation Cité Philo, c'est 15 000 spectateurs, auditeurs, participants sur 3 semaines. Je ne l'ai pas cité parce que 15 000, ce n'est pas mieux que 120 de notre ami. C'est la même chose, quoi. Vous voyez, ça n'a aucune signification particulière. Quand ce que nous avons vu, c'est, on va dire, la cause de l'émancipation. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose que l'éducation populaire. Mais peut-être qu'il y a des points, il y a des points communs.
Je vois une main se lever à 11h. Voilà. C'est plus simple dans les ateliers.
Oui, bonjour. Brigitte Bessot de Rion, dans le Puy-de-Dôme. Pour monsieur Tité Philo, une précision s'il vous plaît, est-ce que les interventions sont enregistrées, mis à part celle de M. Stigler en prison? Et si oui, qu'en faites-vous? Et pour Renaud, est-ce que tout était enregistré et quelle utilisation avez-vous pu en faire ensuite? Est-ce que c'est juste des archives ou bien est-ce que ça continue de vivre après?
Alors, en ce qui concerne Cité Philo, depuis 17 ans, on enregistre beaucoup de choses, mais de qualité progressivement... ça s'améliore, on va dire, mais on n'a pas tout. Mais si vous allez sur le site de Cité Philo, www.citéphilo.org, vous trouverez beaucoup de conférences enregistrées dans une qualité, acceptable. On essaye de s'améliorer. Ça n'est que depuis un an que nous bénéficions de crédits du CNL pour améliorer notre site internet. Voilà.
Alors nous, on a presque tout enregistré à l'exception de petits problèmes techniques qui ont été qu'on a rencontrés quelques fois. On les a mis sur le site qui a un pas tout à fait dans sa forme telle qu'on l'avait que je l'avais construit, mais là ça a été lié à la transition qui a été un peu compliquée. Toutes les archives sonores sont conservées sur le site. On avait mis en place un podcast bien entendu possible, et j'en avais gravé sur CD que j'avais mis dans les bacs de la bibliothèque, parce que quand je parlais des ponts que j'ai faits, j'ai volontairement un peu masqué au départ la bibliothèque, et quand on s'est senti plus mature, on a petit à petit refait les ponts entre la bibliothèque et la salle de cinéma, et dans les deux sens quoi. Mais parce que justement ça y est, au bout de quelques années, les gens disaient la pulpe et c'était il n'y avait pas de référence trop connotée, trop savante d'un côté ou de l'autre, et du coup ou en tout cas qui pouvait inquiéter. Et on a créé des ponts à travers ce genre de choses, c'est-à-dire par exemple en gravant les conférences sur des CD à mettre dans les bacs de la bibliothèque.
Justement dans la même idée, pourquoi est-ce que vous n'avez pas délibérément pas mis la bibliothèque en avant dans l'organisation des premières conférences à Tens?
Le bibliothécaire était contre. en l'occurrence. Parce que je voulais éviter l'écueil qui était que le public, les habitants pensent qu'il faille lire les livres avant de venir écouter la conférence. Parce que je l'entendais. Que je voyais qu'on faisait la pub des livres avant chez le libraire local, et c'était très bien. Et il y avait beaucoup de gens qui pensaient qui n'avaient jamais suivi de conférence et qui pensaient qu'il fallait lire le livre avant et que c'était presque une interrogation quoi, ou une explication de texte avec l'auteur. Alors je voulais pas ça. Je voulais dire la conférence c'est aussi une manière vivante de rentrer dans une pensée pour ensuite oser peut-être tourner quelques pages. On peut s'arrêter au milieu, hein, mais c'est pas. Donc c'est pour ça que la principale raison c'était ça.
Et tu veux dire quelque part qu'il n'y ait pas de confusion avec une des pratiques courantes en bibliothèque, la rencontre avec auteurs, qui en général met en relation des lecteurs qui ont souvent apprécié. Mais là, c'est vraiment le sujet qui importe.
Oui, c'est ça. Et c'est que ça ne soit pas interprété de cette manière. Et je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Donc si ça me revient, je vous le dirai.
Une autre main se lève. Oui.
Parlez comme ça. Bonsoir. Alors, il m'est arrivé d'assister à une conférence d'une université populaire avec quelqu'un qui ne se sentait pas légitime à y aller, à être présent. Et plus que le contenu, qui était parfaitement accessible et qui lui posait pas de soucis, c'est parfois la forme magistrale de la conférence qui a pu le déranger, l'intimider. Alors je me demandais si vous meniez une réflexion aussi sur le format, si vous demandiez aux conférenciers d'adapter, de réfléchir.
Oui, alors c'est une question importante parce que en réalité, on sait que il y a plusieurs régimes de discours possibles d'un côté. Et il se trouve que c'est l'expérience que j'ai vécue depuis 17 ans. J'ai dû assister à un bon millier de conférences. Les plus claires, les plus puissants sont compréhensibles par tout le monde. C'est souvent le cas. Dans le milieu de l'université, on a tendance à jargonner parce qu'on n'est pas très assuré de ses positions. Mais petit à petit aussi, la manifestation, comment dire, crée ses propres exigences, et chez les auditeurs aussi. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, le niveau monte. En tout cas, le niveau peut monter. Et donc, le régime de discours, oui, parce qu'il s'agit de publics hétérogènes. Vous allez trouver dans une salle de cité philo aussi bien des étudiants de philosophie, des enseignants de philosophie ou non, et puis un public indéterminé qui s'est fidélisé au fil des années. Et donc, ce public étant hétérogène, c'est plutôt l'exigence intrinsèque à la manifestation qui fait que, aujourd'hui, ils ont l'habitude, quoi. Mais c'est le cas de ceux qui sont fidélisés. C'est pas le cas de ceux qui ne sont jamais venus. Et pour ceux qui ne sont jamais venus, il faut faire un effort particulier. Cet effort, c'est aussi bien quel type d'intervenant que telle problématique, que tel lieu. En effet, vous avez raison, l'amphithéâtre, ça rappelle l'université qu'on n'a jamais fréquentée parfois, ou bien la salle de classe, on va prendre une leçon. Toutes ces choses comptent. C'est la raison pour laquelle on a besoin de médiation en amont, pour essayer de définir un peu le format, le cadre. On a besoin de gens qui sont au contact de publics particuliers. Ce n'est pas marketing, c'est pas cible non plus. C'est parce qu'on a rencontré... j'ai rencontré un éducateur des rues. C'est une rencontre. On se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble ? Tandis qu'un marketeur aurait dit, voilà, il nous faut telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Bon. Ça passe par des médiations sensibles, de désir de faire, d'envie de faire, parce qu'il n'y a aucune obligation à faire ce qu'on fait. Aucune. Il faut que ce soit supporté par notre désir. Ça, c'est très important pour aller au-delà des régularités professionnelles. Mais vous le savez, ça.
Bonjour, Philippe Pinault. Une question à la personne qui s'occupe de Cité Philo, mais éventuellement aussi à Renaud, parce que je pense qu'il connaît la maison d'édition et les presses philosophiques du Puy. Comment intégrez-vous dans votre projet la réflexion de Karl Marx dans sa 11e thèse à Feuerbach ? Les philosophes n'ont fait jusqu'à maintenant qu'expliquer le monde. Il s'agit maintenant désormais de le transformer, ce que les bibliothécaires essaient de faire.
Nous vous en remercions. Nous constatons que transformer le monde n'est pas une mince affaire et que probablement on peut avoir aussi besoin des philosophes de temps à autre. Je disais simplement, qu'est-ce qui a changé après 68, en fait,
après les années 70, disons, Sartre jugé sur son tonneau devant les usines Renault. Ben, ce qui a changé, c'est qu'on a parlé d'intellectuels situés. Voilà, situés. C'est ça qui a changé. Alors on voit toujours, évidemment, des gens dans les médias, occuper les médias. On connaît leurs noms. Certains sont brillants, certains le sont moins. Certains sont sincères, d'autres le sont moins. Peu importe. Nous, ce qui nous importe, c'est le collectif, le travail collectif. Voilà. Une association comme la nôtre, c'est un travail collectif harassant, enfin, qui commence le premier jour après la fin de la manifestation jusqu'à la manifestation suivante. C'est des ateliers en permanence, des bureaux de l'association, des conseils d'administration. L'association compte une centaine de profs de philosophie, 83 je crois, et ces gens-là, ils sont exigeants, quoi. Donc c'est difficile, c'est un travail difficile. La démocratie est difficile, vous le savez, c'est difficile, mais ça vaut la peine.
On a été interpellé.
Pour l'exemple de la pulpe, on était peut-être beaucoup plus modestement, et pour reprendre une formule qui a été à la mode, on était un petit peu dans le penser global, agir local, quoi, tout simplement, c'est-à-dire il fallait bien, en tout cas, commencer par quelque part, donc c'était là où je me sentais le plus utile à titre personnel, l'idéal immédiat de transformer le monde, ni le rendre intelligible, n'étant pas philosophe, donc la question de ces passeurs, c'est bien ça dont on parle aujourd'hui en tant que bibliothécaire. Elle est vraiment très importante parce que si on veut effectivement se placer délibérément du côté de la transformation, de manière très ouverte, je crois qu'on perd du monde en route, quoi, où on attend toujours. Enfin, on les attend. Voilà, on se retrouve seul devant, on se retourne, il n'y a plus grand monde, quoi. Et si effectivement on se contente d'être peut-être dans la théorie, sans doute que ça. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas tout à fait satisfaisant de notre point de vue de citoyen, mais on marche sur un fil, quoi, de ce côté-là. Moi, j'ai l'impression que c'est un numéro d'équilibriste, l'exemple que j'ai présenté, il a plutôt bien fonctionné. Peut-être que dans quelques années, il ne fonctionnera plus. Et il a fonctionné dans un territoire donné, un contexte donné. Donc c'est simplement d'être alerte sur toutes ces questions-là pour essayer de reconstruire en permanence les outils. Voilà, surtout jamais les figer, je crois. Et je rebondis sur une question qu'on posait tout à l'heure, très rapidement. Est-ce qu'on a changé les façons de transmettre le savoir, nous? Non, voilà, c'était plutôt académique, mais on ne se sentait pas les épaules de réinventer dans l'immédiat tout de suite des nouvelles façons de construire ou de transmettre le savoir. Simplement, on a voulu le rendre familier, parce qu'il y a des gens pour qui c'est effectivement pas familier, ce mode de transmission, puis ensuite de débat. Donc c'était créer un cadre familier pour que les gens se sentent, trouvent leur place, et ça c'est dans la durée que ça se fait, mais ça se fait aussi, comme le disait Léon, dans la médiation, d'accueillir les gens sur le seuil du cinéma, de leur serrer la main, de discuter, de leur tendre la parole quand on voit qu'il y a un frémissement, ou de pas leur tendre délibérément le micro alors qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer et qu'ils étaient très à l'aise de venir écouter, que ça les a déjà valorisés de pouvoir suivre une conférence en entier et d'être là au milieu d'autres personnes qu'ils considèrent comme plus instruites, etc., etc. Donc ce travail d'inclusion, il ne se fait pas uniquement auprès des personnes dites marginales, quoi. Il y a vraiment un travail d'inclusion permanent de tous et tout le temps, et y compris nous-mêmes, hein. Donc voilà. Et enfin, sur pourquoi je n'ai pas lié trop la bibliothèque, c'était aussi un peu tactique. Je ne voulais pas être piégé un jour et pouvoir m'arrêter si je sentais que la collectivité commençait à prendre une place trop importante et voulait m'imposer les thèmes, les conférenciers, etc. Parce que, par exemple, qu'on m'impose de recevoir des intellectuels de Haute-Loire, je sais pas, Laurent Wauquiez par exemple, ou des choses comme ça, je me disais si je sens que ça ne correspond pas tout à fait à ce que je considère être dans la vocation de notre petite université populaire, je préfère pouvoir me retirer très tranquillement en me disant bon, non, mais je fais ça sur mon temps personnel, ce qui était le cas. Voilà.
Je proposerais bien à Guy Cèze de nous donner aussi un avis dans sa position où il a été aussi engagé dans des mouvements qui ne sont pas uniquement sur la réflexion, mais aussi sur la transformation du réel, peuple et culture, la ligue de l'enseignement, enfin, c'est l'éducation populaire, c'est agir aussi. Donc, si Guy veut bien, ce sera peut-être d'ailleurs le mot de la fin, à moins qu'il y ait encore une question. Oui.
Oui. Oui, en fait, au sein même de, par exemple, de mon association, Peuple et Culture, quand j'y militais régulièrement, ou dans les relations avec les autres mouvements d'éducation populaire, le problème a toujours été le même. C'était le problème que posait Peggy quand il a fait l'analyse de l'échec des universités populaires à partir des années 1904, 5, 6. Et il disait « On a voulu aller au peuple, c'est pas assez, maintenant il faut se faire peuple. » Et moi j'ai toujours combattu les deux options. J'ai toujours combattu l'option d'aller au peuple, parce qu'elle suppose évidemment que l'on a un savoir sur plomb blanc qui fait autorité et que l'on impose sur ceux qui sont totalement ignorants. Et pour ça, il y a d'autres lieux, il y a éventuellement l'école. Et puis, se faire peuple, c'est courir le danger très vite de la démagogie. C'est la raison pour laquelle les exemples qui nous ont été donnés aujourd'hui sont des exemples qui travaillent sur un entre-deux, qui construisent cet entre-deux de la médiation. Et je ne vois pas d'autres pour l'instant. Donc il ne me semble pas que, en disant cela, je ne dis pas que la médiation c'est l'alpha et l'oméga, je dis simplement que dans toutes les tentatives, que ce soit ici, que ce soit dans le passé, que ce soit ailleurs, on se heurte à ces mêmes problèmes. Et ce qui fait la différence, c'est le soin que l'on apporte à la médiation. Le soin, c'est-à-dire la manière dont elle est pensée comme un processus global et non pas comme une action ou une série d'actions, mais comme un processus global qui inclut des formes de réflexivité, qui inclut aussi des formes de respect. Respect des auteurs et respect des publics, parce qu'il faut aussi respecter ceux qui savent. C'est pour ça que je suis un peu gêné à l'égard de la question de l'expressivité, puisque dans l'expressivité, tout le monde sait. Ou comme disait Joseph Beuys, Jeder Mensch ein Kunst, tout le monde peut être un artiste. Et donc, il y a effectivement là peut-être des formes de démagogie qui sont dangereuses, me semble-t-il. Et en même temps, on a plein d'exemples d'innovations, à la fois conceptuelles, sur le plan esthétique ou sur le plan même de la connaissance, qui passent par des canaux qui sont subreptices ou qui sont exorbitants des canaux institutionnels. Mais en ce qui concerne l'éducation populaire, La vraie question, c'est celle effectivement de la médiation. Et en même temps, quand je dis ça, quand je regarde un petit peu comment ça se passe, je vois que toutes les grandes institutions culturelles ont mis en place des formes, des métiers même, de la médiation. C'est évidemment le cas dans les musées, c'est le cas dans d'autres domaines. Ce qui me semble être une particularité peut-être du monde des bibliothèques, c'est qu'elles n'ont pas encore toutes, en tout cas, ou les plus petites, elles n'ont pas encore divisé le travail à ce point que les médiateurs se seraient spécialisés et se seraient donc coupés un peu du reste des autres activités qui sont celles du métier de bibliothécaire. Donc là, je pense qu'il y a une chance. En même temps, c'est une lourde responsabilité parce qu'il faut faire cela à côté de tout le reste.
La dernière prise de parole.
C'est comme ça ? Bonjour. C'est pour travailler dans une bibliothèque qui organise des rencontres qui sont inspirées du fonctionnement de l'université populaire. Les questions qu'on se pose maintenant, c'est comment intégrer en amont, dans l'idée justement de la participation telle que l'éducation populaire aussi le proposait, un travail sur les programmes, la programmation avec les publics. Alors, il ne s'agit pas d'être démagogue, mais du coup, ça pose plein de problèmes, parce que c'est vrai que quand on travaille la programmation, déjà on la travaille en amont, on la travaille aussi sur des thématiques, avec des partenaires culturels ou autres. Et effectivement, la médiation est importante, mais tout ce travail en amont, où le public n'est pas intégré, en fait, et on se pose la question, je vous la pose aussi, c'est vrai que je pense que dans un cadre associatif, c'est différent. Du coup, dans un cadre institutionnel, notamment médiathèque, la question se pose aussi parce que voilà, on est dans un cadre et je vous renvoie aussi ce questionnement. Merci.
J'ai pas bien compris la question. C'est là peut-être qu'il faut utiliser les réseaux sociaux. C'est là qu'il faut utiliser les outils que l'on a. C'est-à-dire que la médiation, j'ai dit c'est un processus, mais c'est un processus qui à la limite n'a pas de fin. C'est-à-dire que une fois qu'il est enclenché, il devrait mettre en place des fidélités, sinon des régularités, des fidélités sur lesquelles on peut se reposer pour essayer de travailler avec des groupes qui souhaitent exprimer leur désir et qui le feraient peut-être dans des cadres qu'on pourrait discuter ensemble. Il ne s'agit pas d'imposer le cadre de la discussion, mais de négocier aussi le cadre de cette discussion. Et de ce point de vue, moi, il me semble, alors, pour le coup, que la bibliothèque participative, au sens où l'usager participe à travers les réseaux sociaux, ça peut être une de ses fonctions.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce parcours. Je vous propose juste un petit mot de conclusion que je reprendrai de la présentation de Renaud. C'est le mot confiance. Je crois que c'est un terme qui peut aussi être un élément de réponse à cette question. La confiance que l'on a en soi dans la pertinence du projet, la confiance que l'on crée chez nos publics, ou en tout cas ceux pour qui et avec qui on construit ces programmes, pour qui on invite des personnes ayant à partager de la connaissance, du savoir, une réflexion. Je crois que moi, je vous propose qu'on se quitte sur ce terme de confiance parce que c'est quelque chose qui construit réellement dans la durée et que la question des programmes, somme toute, la part de méthodologie est assez simple à mettre en place ou à acquérir. Par contre, la confiance en soi et la confiance que l'on suscite chez les autres, c'est ça le vrai travail de fond à travers la médiation et à travers aussi la disponibilité que l'on sous-estime très souvent de ceux à qui on n'ose pas toujours s'adresser. Je n'ai jamais eu de refus de quiconque. Les seules fois où ça ne fonctionne pas, c'est quand on a un calendrier contraint et c'est des questions de disponibilité, de calendrier de chacun. Mais sur le fond, on trouve toujours un écho favorable quand on présente correctement la démarche, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une programmation artistique, culturelle, on est dans la construction d'un échange de savoir dans un lieu particulier qui est la bibliothèque, mais en s'appuyant aussi sur cette histoire parallèle des universités populaires. C'est le mot de la fin que je vous propose pour aujourd'hui. Merci de votre attention et rendez-vous pour la plupart d'entre vous, j'espère, dans moins dans trois quarts d'heure, même pas, non, dans 30 minutes pour l'Assemblée générale. Allez reprendre des forces.